Alors nous allons parler du dialogue conjugal et je vais le faire d'une façon un peu originale en comparant tout ce qu'il faut pour réussir une oraison et tout ce qu'il faut pour réussir un dialogue conjugal. Pourquoi pas ? Voyons plutôt. Ce serait une façon pour moi de vous rappeler aussi cette réalité fondamentale que les équipes Notre-Dame essayent de vivre de leur mieux. L'oraison quotidienne, l'oraison qui est ce temps fort que nous donnons à Dieu. Quand vous commencez à prier, c'est vrai d'ailleurs pour toute prière, que ce soit une prière personnelle ou une prière liturgique, il faut rectifier votre intention. Seigneur, c'est pour toi que je vais prier, pour te faire plaisir. J'ai ce pouvoir extraordinaire que la Bible affirme de réjouir le cœur de Dieu. Donc si je m'ennuie au cours d'une messe, ce n'est pas grave, parce que le Seigneur, il ne s'ennuie pas. Il est très heureux de vous voir là. J'ai toujours été frappé par la réflexion faite par un homme du Nord que je connais bien et qui expliquait un dimanche matin à des couples comment il en était venu à faire oraison tous les jours. Il s'est rappelé un jour une réflexion de sa grand-mère. Dit Jean-Paul, ça ne doit pas être drôle de venir voir comme ça ta grand-mère toutes les semaines. Ma conversation n'est pas très intéressante pour un jeune. Mais tu sais, qu'est-ce que ça me fait plaisir de te voir comme ça toutes les semaines. Ça me rajeunit. Et un jour, il a appliqué cela à sa relation avec le Seigneur. Seigneur, moi je suis monteur électricien. L'oraison, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais si ça te fait plaisir, me voici. Et depuis, il fait oraison tous les jours pour faire plaisir à Dieu. Et bien de même, quand vous commencez un dialogue conjugal, l'idéal, ce serait de le faire pour faire plaisir à l'autre. Un véritable rendez-vous d'amour, comme au temps de vos fiançailles. Vous savez qu'il faut sans cesse redevenir fiancé, en abandonner les illusions éventuelles, mais en conserver cette fringale de faire plaisir à l'autre. Je cite souvent à mes confrères prêtres le mot du curé d'Ars, interviewé par son évêque. « Qu'est-ce qu'il faudrait, monsieur le curé, pour que le clergé de notre diocèse soit un clergé de saint prêtre ?»« Oh, monseigneur, répond le curé d'Ars, il faudrait rester toute sa vie séminariste. » Appliquer cela à toutes les conditions, rester novice, rester fiancé, conserver cette fringale de perfection et surtout ce désir de rendre l'autre heureux. Donc, vous pouvez y penser dès maintenant. Le dialogue que vous aurez demain matin entre vous, envisagez-le comme une façon de faire plaisir à l'autre. L'autre, messieurs, votre épouse, va avoir le plaisir de parler, une fois de plus. Et puis, prenons tout notre temps. Dans notre dialogue avec Dieu, il faut souvent prendre du temps, car ce n'est pas d'une minute à l'autre qu'on arrive à se mettre en sa présence et à écouter ce qu'il a à nous dire. Il faut prendre du temps. Et vous savez, messieurs, à quel point les femmes aiment bien qu'on prenne le temps avec elles. Tous les conseillers conjugaux disent à quel point l'harmonie sexuelle d'un couple vient souvent du fait que l'homme prend du temps dans sa relation intime avec sa femme. Il faut du temps. La sexualité de l'homme est beaucoup plus rapide. Bon, l'homme peut arriver tout de suite au plaisir. La femme, il faut beaucoup de caresses pour qu'elle arrive à jouir. Il faut prendre beaucoup son temps. Eh bien, dans le dialogue conjugal, c'est la même chose. Il faut se dire, donnons-nous du temps. Ne regardons pas trop vite notre montre pour savoir où nous en sommes. Il va sans dire que je parle de tout cela avec un grand sentiment d'infériorité, puisque je ne sais pas ce que c'est que de rendre une femme heureuse. Donc dites-vous que je me sens vraiment très inférieur à vous. Mes sentiments n'est pas complexe. Moi, je suis bourré de sentiments d'infériorité. Bon, par exemple, quels sont ceux qui savent faire cuire un poulet ? Levez le doigt. Regardez, même les hommes qui savent cuire un poulet, non seulement le découper, mais le cuire. Eh bien, moi, je n'ai jamais essayé. Quels sont ceux qui savent jouer d'un instrument de musique? Allez, levez le doigt, tous ceux qui savent jouer d'un instrument de musique. Hein? Moi, je ne sais pas. Et un homme ou une femme normalement constituée est rempli de sentiments d'infériorité. Quels sont ceux qui savent magnifiquement pianoter sur un ordinateur, etc. Bon, c'est pas grave, il y a des choses que je ne sais pas faire. Mais je ne viens pas justement vous parler comme... Je ne viens pas vous parler de mon expérience. J'essaye de projeter sur... cette réalité fondamentale de dialogue, une lumière évangélique. Et puis c'est vrai qu'à force d'écouter un certain nombre de confidences, on finit par deviner ce que peut être la vie conjugale. Alors, dans un dialogue conjugal, comme dans l'oraison, on peut prendre différentes pistes. Mais je vous dis tout de suite que vous pourrez faire du hors-piste sans danger d'avalanche. Et la liste que je donne n'est pas forcément une liste chronologique. Lorsque vous priez, vous devez normalement passer beaucoup de temps à admirer Dieu. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau. Tu es super chouette, diraient les jeunes. Tu es extraordinaire, tu es Dieu. Tu es infiniment beau, infiniment bon. Et puis tu as de la chance parce que tu n'as aucun mérite. Vous savez que Dieu est en dehors du mérite. Il aime comme vous respirez, ça se fait tout seul chez lui. Il a de la chance. Dieu est sans rancune, par exemple. Même en se forçant, il n'arriverait pas à avoir de la rancune pour vous. Et il n'est qu'amour. Ça, l'amour, ça dégouline de lui. Il est comme cela. Bon. Ben, de temps en temps, dans ma prière, je m'oblige à admirer Dieu. Mon Dieu, que ton nom de Père soit sanctifié. Tu n'es que Père. Tertullien, le premier auteur à avoir parlé latin dans la tradition chrétienne, avant c'était grec, « Nemo tam pater », personne n'est aussi Père que Dieu. Tu es un Père sans Père. Tu es à la fois Père et Mère. Formidable. Souvent, nous ne prenons pas suffisamment le temps d'admirer Dieu, de nous attarder sur les premiers mots du Notre Père. Que ton nom soit sanctifié. Et puis dans la prière, il faut aussi se faire admirer par Dieu, parce qu'en ce moment, Dieu est en train de vous admirer. C'est un des mystères les plus grands de notre Bible. En ce moment, Dieu a du plaisir à nous regarder. Alors c'est vrai que si je me regarde dans la glace, je n'ai pas du tout l'impression d'être admirable. Mais Dieu me le dit. Il m'admire comme un mari admire sa toute jeune femme. C'est fondamental. Et c'est pourquoi je mets de temps en temps un tulle de mariée à mon antenne de voiture pour me rappeler que je suis en voyage de noces avec le Seigneur. Dieu m'admire. Je serais un saint si je vivais à fond ce que je suis en train de vous enseigner. J'y crois, mais je sens que je pourrais y croire davantage et en vivre davantage. Il faut apprendre. Je rêve évidemment d'un collège qui serait tellement chrétien que tous les professeurs et tous les élèves en seraient persuadés. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, fiston ? J'ai suivi un cours de maths. Le professeur, il a rendu les devoirs. J'ai un 7 sur 20, c'est pas génial. J'ai joué en récréation, j'ai repris mon vélo. Qu'est-ce que tu as encore fait ? Ah ben écoute, maman, si tu veux le savoir, j'ai fait plaisir à Dieu. Et si tous les professeurs y croyaient également ? J'ai corrigé des copies, j'ai participé à un conseil de classe, j'ai donné mon enseignement, j'ai repris ma voiture. Qu'est-ce que tu as encore fait, chérie ? Ben écoute, j'ai fait plaisir à Dieu. Je crois que c'est fondamental. Je tâche d'y penser, moi, tous les matins, en faisant ma toilette, en m'habillant. Je fais plaisir à Dieu en m'habillant. Vous voyez, ces choses les plus simples possibles, elles peuvent intéresser Dieu, se laisser admirer par Dieu. Vous êtes des petits princes et des petites princesses qui font plaisir à Dieu. On ne se prend pas pour n'importe qui, entre parenthèses. Hein. C'est évident que ce n'est pas évident. Ça suppose la foi. Ça, c'est pour la prière. Eh bien, je pense que dans le dialogue conjugal, vous pourriez passer du temps à vous admirer. À vous admirer de nouveau. Que tu es belle, ma bien-aimée, des pieds à la tête. Comme l'époux dans le Cantique des Cantiques qui fait tout l'éloge de sa bien-aimée, vraiment des pieds à la tête en passant toutes les parties de son corps. Et puis tu me plais. Je dirai cet après-midi à quel point ce n'est pas toujours possible. Vous verrez que je ne me fais pas d'illusions. Il y a des moments où ce n'est pas possible de faire ça. Quand votre mari vous énerve vraiment, vraiment, il n'a plus rien d'admirable. Et je vous dis tout de suite, ne vous culpabilisez pas de cela. Ce n'est pas un péché, c'est une croix. Vous pouvez transposer. Par galanterie, je prendrai plutôt les exemples dans ce sens-là, messieurs. Hein? Bon, donc, c'est évident que l'autre n'est pas toujours admirable, a fortiori quand il devient alcoolique. Prenons des exemples tout de suite à l'asymptote. Donc, c'est complètement ridicule, je le dis tout de suite. Hein? J'espère que vous ne composez jamais pour votre paroisse de ces intentions de prière débiles qu'on entend parfois. Hein? Seigneur, faites que je vois toujours le beau côté des choses. C'est pas possible. C'est New Age, ça. Tout le monde y est bon, tout le monde y est gentil. C'est pas chrétien du tout, ça. C'est très à la mode. Non, pas possible. Nous sommes lucides. Il y a des imbéciles, et des affreux, et des méchants. Et Dieu sait si la Bible le dit. Nous ne vivons pas dans un univers gris, mais dans un univers en noir et blanc. Non. Donc, je mets tout de suite le bémol, c'est pas le bémol, mais il y a des moments où vous avez quand même le droit et le devoir de vous admirer, de vous forcer un petit peu à revoir tout ce qu'il y a de beau chez l'autre et à le lui dire parce que ça lui fait plaisir. Pas seulement féliciter votre femme pour la cuisine extraordinaire qu'elle fait, j'ai bien conscience que la femme, je ne réduis pas la femme à la ménagère, j'ai pas envie de recevoir des tomates à la sortie, moi, hein. Bon, mais de féliciter l'autre, de l'admirer. et puis de vous laisser admirer. Vous pouvez passer une heure de dialogue à dire, tu sais, finalement, on ne se dit pas suffisamment tout ce qu'il y a d'admirable en chacun d'entre nous. Ça va sans dire, mais ça va parfois mieux en le disant. Je pense que le rôle du dialogue n'est pas forcément tout de suite de régler les affaires, a fortiori de faire le contentieux, mais de se dire qu'on s'aime bien, avec cette nuance d'admiration qui est essentielle dans un amour conjugal. Je passe, mais vous sentez que ça peut durer. Revenons à la prière. Avant de célébrer l'Eucharistie, reconnaissons que nous sommes pécheurs. La demande de pardon existe au début de chaque Eucharistie. Même dans une messe de mariage, on commence par dire cela. Seigneur, on ne s'est peut-être pas encore suffisamment préparé à notre mariage. Seigneur, on n'est pas des gens nickel, on est des pécheurs, des pauvres pécheurs pardonnés. Nous verrons cet après-midi la joie qu'il y a à le dire. Et c'est bon. Eh bien, de même, on peut commencer, dans un premier temps du dialogue conjugal, se demander pardon pour les petites indélicatesses, pour les manques d'attention. C'est vrai que j'aurais pu donner quelques bisous supplémentaires, j'aurais pu être plus attentif à te rendre service, je n'ai pas repéré assez vite que tu avais un souci, ou tu me l'as dit et puis j'ai passé à autre chose. Bon, sans s'attarder là-dessus, c'est bon de se demander pardon. On verra cet après-midi à quel point c'est bon de demander pardon. Il y a des hommes qui n'ont jamais demandé pardon à leur femme. Ils se sont contentés de s'excuser. Tu sais, chérie, il y avait du monde sur l'autoroute, alors j'étais un peu énervé tout à l'heure. Comme c'est bon de dire « je te demande pardon ».